Re-bienvenue à Du pain des jeux, mettre tout des jeux, même si c'est ben bon du bon pain. J'appelle Pierre-Luc Racine et je suis avec...
Guilla Saint-Cyr!
C'est vrai! Crime, t'as la bonne réponse aujourd'hui, mon brave!
C'est moi!
C'est Guilla Saint-Cyr. Guilla Saint-Cyr, t'es auteur dans la vie. Tu oui. écris pour l'émission à la semaine prochaine.
Exactement.
À la Radio d'État.
Oui, et avec vos, j'écris avec vos taxes.
Oui, avec nos taxes! En ce moment, Éric Duhaime est choqué.
Taxes!
Puis genre, ça fait que le podcast est meilleur maintenant.
Woo!
Yes! Et t'es aussi auteur d'un livre. On a reçu ton co-auteur il y a deux épisodes. C'est mon porte-à-lance.
Exactement.
Donc, parle-moi un peu de Canal Famille. Parle-moi ce livre-là, de qu'est-ce qu'il m'aurait probablement pas dit.
Ah, mon Dieu, j'ai l'impression que Simon va avoir tout dit. C'est un livre qui retrace toute l'histoire du Canal Famille de 88 à 2000, les débuts de VRAC. Il y a un portrait foisonnant des technologies qui se fait. Je sais que Simon oui. parlait de Génération W, mais il y avait le studio de Bruno Blanchette, qui avait une portion qui était le studio techno, qui parlait de tous les jeux vidéo. En fait, la seule affaire qu'il ne pouvait pas faire, c'était parler de jeux violents.
Mm-hmm.
C'est quand même weird, tu sais, à part...
C'est quoi la définition de violent? Est-ce qu'en même temps, Mario World est violent?
Non.
OK, fait que c'est du comic mischief, c'est correct.
Oui, c'est okay. ça. Tu sais, Donkey Kong, c'était correct d'en parler. Okay.
Monsieur Fighter, mettons, c'est des
ouais, c'est ça, Wolfenstein, tout ça.
Ouais, Wolfenstein, je peux comprendre qu'un Canal Famille, ils sont comme « Hey, Canal Famille! »
C'est ça, ouais.
Tu sais, il y a pas ce qui joue même pas Tortue Ninja, parce que c'est trop violent, là.
Mais tu sais, c'était une émission qui parlait de, pas juste de jeux vidéo, mais de nouvelles technologies. Il y a eu les débrouillards aussi, tu sais.
Excuse-moi, Guilla, je me souvenais vraiment flou de un moment donné. Je pense que Bruno Blanchet envoie un fax.
Ouais, ça devait être dans le studio techno.
C'est ça, juste pour montrer que ça existe. Puis on est comme, oh my god, tu peux envoyer un papier qui se reproduit ailleurs. C'est incroyable.
Ouais. Il avait parlé des premiers GPS. Il y a un épisode incroyable, il est en ligne d'ailleurs, où il parle de Photoshop.
Hum!
En 94.
Crime.
Et c'est... voyons, comment il s'appelle? C'est un milliardaire québécois. Alexandre Taillefer.
Mm.
Qui vient présenter Photoshop.
Ah, avec des petits cheveux, là. Puis,
ouais.
Oui.
Alexandre Taillefer qui avait parti au taxi avec une grande tragédie aussi. Là, on reviendra pas là-dessus. Comment?
Un dragon.
Oui. Ce fut un dragon. Oui. Il est rentré dans la caverne avec François Lambert et...
Daniel Henkel.
Mais tu sais, il y avait ce souci-là de mettre à la télévision des émissions qui parlent de technologie, qui parlent de jeux vidéo où on voit des jeunes qui jouent, et il y avait probablement une des meilleures séries de fiction probablement de tous les temps, Reboot.
Oui, c'est ça.
Canal Famille.
En français, Megabug. On s'est parlé un petit peu avant l'émission de Megabug. Puis là, je me suis dit, non, arrêtons! Gardons ça pour la pod. Gardons ça pour l'enregistrement. Guilla, pour les gens à la maison qui ont, mettons, sont en voiture, puis ils peuvent pas googler c'est quoi Megabug, parle-moi de Megabug, quelqu'un qui a les mains.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître avec Reboot.
C'est genre, Megabug, c'est la bohème.
C'était l'histoire de principalement Bob avec ses amis Dot et Enzo. Dot était une fille, Dot était un petit garçon. Bob, c'était le héros typique, flawless.
Clairement, genre grand frère, petite sœur, mettons. Là,
exactement, l'énergie. Oui. Ben, avec une petite tension amoureuse entre Bob et Dot. Ça se passait à Mainframe. C'est la première émission d'animation en 3D. C'est une émission canadienne.
Mm.
C'est arrivé sur les ondes de YTV en 94, donc ça précède Toy Story.
C'est fou pareil que les graphismes de Megabug, ça tenait pour l'époque en plus. Mais même aujourd'hui, c'est pas tant le Uncanny Valley qu'on a vécu avec d'autres...
Non, ça, puis même quand tu regardes des émissions qui ont été faites début 2000, par exemple chez Disney, genre Rolly Polly Holly ou Mickey Mouse Clubhouse, me semble que c'est ça le titre. Ou même Winnie l'ourson, l'animation est dégueulasse, puis tu regardes Megabug, puis ça se tient.
Oui, ou sinon, des fois, mettons, dans les films d'animation ou des séries, mettons, Donkey Kong à l'époque, il y a tout le temps un genre de flottement bizarre dans l'air, le timing n'est pas vraiment parfait.
Tout est un peu off.
Ouais, tout un petit peu off, sans dire pourquoi.
Ça, c'est quand même assez tight. C'est sûr que c'est pas de l'animation comparativement à ce qui se fait aujourd'hui.
C'est pas Pixar,
Non, ça, c'est pas Pixar, puis... Tu regardes les animations aujourd'hui, c'est un peu janky, mais c'était nice de voir un monde, ça se passait dans un ordinateur, donc Mainframe, puis c'était des personnages qui devaient combattre l'utilisateur, donc probablement un enfant sur son ordinateur qui insérait des cubes de jeu, donc GameCube.
Oui, avant le GameCube, genre.
GameCube.
Ouais.
Puis c'était de mémoire, je suis daltonien, fait que les couleurs c'était un peu rough, mais oui. Il me semble que le cube était mauve.
Ah, qui non, il était jaune. Il me semble qu'il était jaune. Puis quand ça marchait, c'est que.
Il était violet,
mauve. Ok.
Violet, mauve, ok. Ouais.
Puis c'est vrai que dans la ville, ça tombe, puis là, il fallait ramasser en dessous.
T'entends, un cube a été inséré.
Oui.
Un cube a été inséré. Puis là, il fallait qu'il se rende à toute vitesse.
En dessous du jeu pour.
En dessous du jeu pour aller jouer. Puis là, c'était comme un nouvel univers. Puis c'était une façon de faire un peu des parodies ou des pastiches ou des hommages à des univers comme. Il y avait un univers qui reprenait beaucoup Donjons et Dragons, même si c'est le Robin des Bois, Fable, ce genre de jeu-là. Il y avait un univers, c'était complètement Mad Max.
Ouais.
Et même, il y a comme une rumeur que Reboot a inspiré Mad Max Fury Road.
Ça se pourrait, pour de vrai, ça aurait comme du sens, parce que, surtout dans la saison 2, on n'est pas encore rendu parler de ça, mais c'était très dystopique, le post-apocalyptique, puis c'est une bonne façon de comme faire « Oh, ça a bien été, puis ça va pas bien. »
C'est ça, mais tu sais, comme quand Reboot est arrivé, il y a bien du monde aux États-Unis, à Hollywood, tout ça, qui ont vu ce show-là arriver, puis ont fait « Oh, tabarouette, les possibilités sont infinies.
Mm-hmm. »
Puis ça a ouvert les portes aux scénaristes, ça a ouvert les portes à des gens qui faisaient de la 3D déjà à l'époque pour aller travailler aux États-Unis, parce que ça a tout été fait au Canada.
Oui, puis aussi, je pense que Reboot, c'est une émission YTV, puis Canal Famille, mais qui marchait pour beaucoup de monde. Ça ratissait vraiment large. Autant qu'un enfant de 6 ans, il aime les petits bonhommes, que, mettons, un enfant de 12, 14, lui, il est comme « Ah ouais, ils sont vraiment cool. »
Complètement.
Puis des adultes, sont comme « Oh, ça a du sens. »
Oui, ouais, mais même la rumeur, c'est que Bill Clinton était un fan de Reboot.
Mm.
Puis qu'il aurait même déjà envoyé une lettre au créateur de Reboot en disant « Je regarde ça avec ma fille, je trouve ça bon, j'aime ça, c'est le fun, continuez votre beau travail, signé président des États-Unis. Mais c'était... Puis en tout cas, c'est un show avec lequel ils ont fait plein d'argent parce qu'ils pouvaient vendre plein de bébelles à côté. Là.
Oui,
je
oui.
sais pas si t'as déjà eu des jouets...
Non, j'ai pas
trouvé pour des jouets Reboot. Chuck, t'as-tu déjà eu des jouets Reboot?
Non, pas toujours.
Moi, j'en avais eu. Moi, j'étais comme sur la limite là, d'en avoir, mais j'avais eu des petits jouets Reboot. J'avais plein d'amis qui avaient toutes les figurines, qui avaient tous les bonhommes. Puis on capotait, mais c'était bien fait. C'était comme un show qui a existé, mais c'est comme la seule forme de cette émission-là qui existe.
Oui, ce genre-là, c'est...
Il y a rien d'autre qui ressemblait de près ou de loin à ça.
C'est ça, tu sais, mettons, le monde dit « How I Met Your Mother », c'est un genre de Friends.
Ouais.
Mais tu sais, il n'y a pas eu un « Ah oui, ça, c'est un genre de reboot
ouais, ».
Parce
c'est
que
ça.
C'est tellement unique, puis différent. Puis aussi, dans Mainframe, ce qui est le fun, c'est que oui, t'as, mettons, l'utilisateur est l'ennemi, mais à travers ça, il y a aussi des personnages, deux en particulier que j'ai en tête, qui sont juste des méchants qui veulent eux-mêmes ouais. constamment à l'intérieur. Fait que là, eux, faut qu'ils gèrent, OK, tout ça va dans le jeu. Pendant ce temps-là, hexadécimal.
Ouais, Megabyte.
Megabyte. Ils veulent take over le diner de l'affaire. Puis ouais. c'est vraiment, comme je trouve, une belle urgence de comme d'écriture en OK, ça c'est problème A, problème B. Là.
Ouais,
ça
ouais.
aussi, il y a ça
puis
dedans.
Puis hexadécimal, ce qui est intéressant, c'était une méchante qui était. Elle avait un look un peu BDSM.
Oui, oui, oui.
Dans un soupe de lycra rouge.
Quand j'y pense à cette heure, j'avais jamais réalisé ça, mais avec des masques comme face aussi.
C'est
tout ça,
puis c'est ça, c'est qu'elle passe sa main devant son visage, puis c'est un masque qui change.
Mm.
Puis ça, côté animation, c'est brillant parce que t'as pas à animer un visage, tu peux mettre une émotion, fait que tu sauves de l'argent. L'autre méchant Megabyte, c'est juste une mâchoire qui bouge.
Oui.
Tac, 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 tac. Fait que. Lui non plus, t'as pas à l'animer. Tous les personnages, en fait, c'était des animations assez rudimentaires, sauf Bob Dot et Enzo, qui sont les seuls qui ont des vraies émotions de face, parce que c'est les seuls qui ont des traits humains, tu sais.
Ouais, puis pour les gens aussi à la maison qui ils peuvent pas googler Hexadecimal Reboot, on parle de masque, genre de théâtre, le caméra de l'arté, là, comme ça, ils sont vraiment, vraiment comme super simples. Mais c'est le genre de masque aussi que l'éclairage virtuel va tout changer.
Ouais.
Dépendamment de ce que tu mets, la lumière, puis là, ça peut augmenter certains traits ou en diminuer.
Ouais, 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 vraiment. Il y avait d'autres personnages comme Fang aussi, qui était leur espèce de Monsieur Miyagi, là, celui qui tenait des conseils.
Oui,
c'est
oui,
un
oui,
peu
oui.
Yoda, c'est un peu... Bon.
Moi, j'avais les Pugs de Reboot. Fait que j'étais assez vieux pour avoir des Pugs. Assez jeune aussi. J'ai un flash de tout ça.
Okay.
Parce que je viens d'avoir le visuel du Pug de ce monsieur-là, de Fang.
C'est intéressant parce que c'est un show bon enfant pour les deux premières saisons.
Mm.
Puis il y a un twist à la fin de la deuxième saison où la ville est détruite parce que Megabyte et Hexadecimal ont mergé
ouais.
et ils ont réussi à tout détruire. Puis t'as Bob Dot. Ben en fait, Bob disparaît dans l'Internet.
Oui. La nouvelle affaire Internet.
Et Enzo et sa nouvelle amie Andrea partent sur une espèce de vaisseau pirate sur genre Pirate Bay.
Oui.
Pour partir sur Internet pour retrouver Enzo. Bob.
Mais ça a rendu genre... Là, c'est rendu sexy, là.
Oh my God. Quand on le retrouve, Enzo est rendu adulte. Il y a des méga pipes.
Ouais.
Il y a de l'air de...
Méga pipes réaliste, là. Pas méga
oui,
pipes.
Oui, avec des veines.
Ouais, tout, c'est là. Ça. Méga pipes, genre comme un acteur hollywoodien, là.
Oh, oui, c'est ça. Il y a de l'air de... la version cheveux bruns, petite barbe de Chris Hemsworth.
Ouais, Chris Hemsworth, ouais, ouais.
Il
ouais.
a vraiment l'air d'un genre de Chris Hemsworth, mais avec les cheveux noirs. Puis Andrea, my God, comment
ouais, ouais.
Andrea sans avoir l'air sexiste.
ouais.
Googlez-la. Là. Arrêtez-vous sur le bord du chemin puis googlez Andrea parce que pour vrai.
Puis assurez-vous que votre pasteur est pas proche parce que sinon il va vous regarder de façon genre comme qu'est-ce que tu regardes la pornographie.
Mais sauf qu'à la famille, ça a été litigieux là, parce que tu sais, saison 1 et 2 sont bon enfant, saison 3 ils ont fait tabarouette, mais tu sais, on a signé un contrat, on peut pas pas le diffuser, mais là. Hey, ils mettent des bonhommes hyper sexy à la télé.
Oui.
Ça a fait découvrir des choses à tout l'enfant.
c'est ça. Mais des choses virtuelles aussi, fait que ça fait bizarre. C'est ça.
Oui.
Que,
mais oui.
C'est tantôt, tu me disais que, pour ça, ceux qui suivent à la maison, la saison 3 est post-apocalyptique, mad-mad-esque, tout est mal parti. Puis aussi, ouais. Je pense qu'ils parlent souvent d'une game qui a été perdue finalement aussi.
Ouais, ouais. Puis il n'y a plus de cube de jeu parce non, que c'est sont sur Internet. Fait que ouais. Ils explorent des mondes.
Puis la symbolique de ça, c'est quoi derrière tu penses que mettons le symbole de se faire envahir puis finalement mal virer après ça parle de pas mal toutes les guerres qui existent quasiment là?
ouais puis ben, tu sais c'est des devices narratifs intéressants aussi d'aller dans ces zones là saison 3 c'est un serial fait que chaque épisode se suit comparativement à saison 1 2 que chaque épisode est contenu dans son propre élément dans son propre 22 minutes là. Je sais pas ce que ça représente, ce que ça veut dire. J'ai jamais intellectualisé Reboot plus qu'il faut.
Il était temps qu'on le fasse le podcast de RDSG.
Non, vidéo. C'est ça. J'ai jamais analysé Reboot.
Mais je me souviens à être jeune et être comme. C'est bien bizarre comme ordinateur que. C'est comme si tu jouais, mettons, à King's Quest, mettons, à l'époque des disquettes. Là, ouais. Là, tu rentres dans un jeu, à l'ordinateur, tu joues à King's Quest, puis après tu joues à Tetris, mais c'est les mêmes méchants qui reviennent dans tous les jeux.
Oui.
Du point de vue de l'utilisateur, puis. Je trouve ça juste bizarre. Comme...
C'est ça qui est bizarre, c'est que dans le jeu, je me souviens pas si. Quand ils prennent forme, ils deviennent les bons. Puis, ouais, ça. Puis dans le jeu, il y a le méchant qui est inclus. Mais est-ce que le kid qui est chez eux, qui joue, il contrôle Bob Dot et Enzo qui prennent forme ou il contrôle ce que nous on considère comme étant le méchant? J'ai jamais compris. Puis, si tu perds, en fait, si. Bob perd contre le jeu, le quartier est détruit. Fait que c'est comme si tu perds un jeu.
Ton ordinateur, il lâche.
Ton ordinateur,
puis...
il lâche. Ouais. Tu détruis ton ordinateur. Est-ce que pas. Tu te dis, bon, est-ce que les gens comprenaient vraiment les ordinateurs quand ils faisaient ce
jeu-là? Je sais pas. Ouais, c'est juste. Ouais. Je pense que ça passe une bonne idée, puis genre, dès que tu creuses en essence, ça n'a plus de sens. Là. Mais c'est aussi pas. Tant important. Ça, c'est une genre d'affaire que, tu sais, mettons, là, des channels whack, là, comme genre CinemaSim, ils vont faire comme Ah, je peux croire que c'est une erreur, tu sais. Mais genre, dans la vie, les affaires, ça marche de même, puis on l'accepte, puis c'est rendu ça.
Ouais, ça marche.
Puis, anyway, c'est pour les enfants, là, on peut se calmer deux secondes. On est deux gars proches de passer 30 ans, là, qui s'estiment.
Ben, il y avait un gros suspension of disbelief, là, en regardant Reboot, là.
Absolument. Puis, au niveau de la famille, ça veut qu'il y avait Megabug, Reboot, il y avait version W, le studio, mais c'est pas mal tout ça aussi qu'il y avait comme. Peut-être sur la piste, peut-être parler un peu.
Sur la piste, il aurait probablement plus fait des reportages sur comment ils faisaient des jeux vidéo. Ils ont-tu fait un reportage à Ubisoft, ça se pourrait, en 97-98, ou les débrouillards. C'est sûr que les débrouillards sont probablement allés en 2000 voir comment ça se passait chez Ubisoft, mais c'était l'époque où ils faisaient...
Puis un reportage difficile, pareil, de comme juste voir des gens devant un ordinateur qui vont juste comme prendre de la Red Bull en sirop à l'époque.
Ben, c'est quand même impressionnant quand t'es jeune de voir, OK, il y a des gens qui travaillent là-dessus, puis c'est à Montréal.
Oui.
Fait que moi, je pourrais le faire.
Mm-hmm.
Parce que ça tourne autour de ces années-là, à peu près, l'arrivée d'Ubisoft.
Guy, j'ai une question pour toi. Tantôt, t'as mentionné un handicap.
Ouais.
T'es daltonien.
Je suis daltonien.
Tantôt, avant, tu me dis que Mario Kart, pour toi, c'est impossible.
C'est impossible. Mario Kart et
Smash.
Super Smash, j'ai jamais réussi à jouer à ces jeux-là. Je ne comprends pas. En fait, distinctement.
On va passer à la base. Quel genre de daltonien que t'es? Parce qu'il y en a plusieurs, je comprends.
Je peux voir pas mal toutes les couleurs.
OK.
Mais c'est comme des strates vraiment contrastées.
OK, fait que c'est noir et blanc.
Les couleurs.
OK.
C'est pas noir et blanc. Par exemple, ça...
C'est rouge?
OK, c'est ça. Je peux dire que c'est rouge. Ça, je pense que c'est bleu.
OK.
J'arrive à distinguer des couleurs.
C'est quoi, ça, maintenant?
C'est noir.
OK, c'est bleu.
Non, mais c'est noir, gris, blanc. Ouais. Toutes les teintes de lumière. Ça, y a pas d'handicap là-dessus. Mais c'est quand tu commences à mêler des couleurs les unes avec les autres. Ça, j'arrive pas à le voir. Comme le test des pastilles, là, que t'as plein de points et un chiffre au milieu. Je l'avais fait la dernière fois que j'étais chez l'optométriste l'année passée. Puis ils me le font passer à chaque fois juste pour voir au niveau de ma vue. J'en ai un, peut-être deux, puis le reste.
Pff. OK.
Mais j'arrive à tout distinguer mes couleurs, mais c'est quand tu commences à mêler, à croiser des couleurs.
Un à côté de l'autre, là, genre un rose, puis un rouge, puis là à côté.
Ah ouais, non, je vais me perdre, je vais me confondre dans tout ça. Ça devient hyper rushant à regarder. Fait que dès qu'il y a une espèce d'orgie de couleurs de stimuli dans la télé, oublie ça, je peux
mais
pas.
Mais t'es cinéphile aussi. Comment est-ce qu'il
se
passe entre, mettons, à Mario Kart ou Guardians of the Galaxy, la deuxième, mettons, l'ouverture?
Ça reste que les films, c'est... Il y a quelque chose de plus sombre dans un film. Il y a toujours quelque chose de plus tondant. Mettons, un Lego Movie, c'est un... T'sais, même si j'adore Lego Movie, des fois, je rush à regarder Lego Movie. Là.
T'es comme genre, je comprends même pas ce qui se passe. Là, genre, faut que mon cerveau...
Non, c'est ça. C'est des scènes de combat. Ouais. Oublie ça, des scènes de combat dans des films, là, ça me perd. Là. C'est juste des blurbs de lumière. Puis je suis comme...
Okay, je
quelque chose se passe, mais je peux pas te dire qui a l'épée puis qui est en train de frapper qui. Mm. Genre la finale d'Avengers, oui, ça vient de tirer des larmes, là.
Ouais. Mais sinon, faut que tu regardes des vieux films de combat japonais, qu'il y a au moins des
shots c'est super large. Je peux l'apprécier.
C'est ça, ouais. Toi aussi, on voit les moves qui connectent au moins, là.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais dès qu'il y a trop de couleurs, oublie ça.
OK, puis parle-moi, ça, c'est une affaire que tu réalises assez rapidement que tu as tenu dans la vie, là. C'est une affaire est-ce que rapidement pour les jeux vidéo, ça a été un problème ou c'est vraiment spécifiquement les jeux beaucoup trop d'action, trop vite?
C'est les jeux d'action. Tu sais, je peux être chez nous. Tu sais, mettons, j'ai une Switch. J'ai réussi à faire le tour de Luigi's Mansion 3, que j'ai adoré. J'ai réussi à faire Super Mario Odyssey, très bien. T'sais, si j'ai juste un personnage à contrôler, ça va bien.
Mm-hmm.
S'il y a trop de bonhommes dans l'écran qui doivent s'affronter, oublie ça, je peux pas te dire sur quelle plateforme je suis. Si ça défile à toute vitesse, puis que... Ah, faut que j'aille pogner l'espèce pas le Tesseract, là, mais l'espèce de truc
la patente,
lumineux, là, puis... je sais qu'il est là. Mais après ça, tu sais, savoir, c'est-tu un ennemi qui est devant moi ou c'est un opposant ou, tu sais, ça va trop vite, ça roule, il y a plein de couleurs tout le temps partout, je le vois pas.
C'est ça parce que, tu sais, comme si, des fois, les jeux sont surstimulants aussi, genre même des jeux, mettons, Super Meat Boy, qui est ou genre, mettons, même un Celeste qui est comme assez smooth, mais pareil, comme, qui bouge, ça bouge pareil, même si c'est un jeu de plateforme, mais ça bouge constamment, ça va être comme compliqué de savoir, comme, ok, ça c'est mon bonhomme, faut que je garde le point sur mon bonhomme parce que, genre, mon cerveau a de la misère à comprendre, est-ce que c'est tellement de background qui bouge. Et mon bonhomme qui est rendu là, tu sais.
Non, c'est ça. Fait que, tu sais, si je peux jouer à des jeux plus réalistes, mettons, ou est-ce que ça va être des couleurs de terre, des couleurs brunes, des couleurs...
Mais comme Minecraft, c'est ton jam, là.
Minecraft, je suis capable de jouer.
Ouais, c'est ça, absolument. Mais tantôt, tu parlais...
J'ai joué, mais je me suis tanné.
Ouais. Mais des fois, ça doit être plate de... Le tantôt, tu parlais, il y a Red Dead Redemption, qu'il y a une version pour Daltonien.
Red Dead, en fait... À peu près tous les jeux maintenant, il y a des mods qui vont highlighter des affaires qui sont faits pour aider les joueurs.
Uncharted de Naughty Dog qui a comme la version highlight. Je me souviens au début, j'avais pas pensé à des gens comme toi, j'avais fait comme ok, c'est pour les enfants qui ont
c'est pour les gens qui ont de la difficulté à avoir des couleurs.
Wow.
Last of Us Part 2, c'est assez impressionnant l'accessibilité.
Mm-hmm. Ouais. Puis Last of Us Part 2. Il y a même des modes où tu peux changer toutes les couleurs. Ça me bug un peu. Parce que les bonhommes à l'écran vont avoir une couleur, les décors vont avoir une couleur différente, juste pour bien distinguer. Ce qui est très pratique, là, ce qui est même utile et nécessaire dans beaucoup de jeux. Mais pour Red Dead Redemption, par exemple, moi, si tu mets une couleur rouge sur un fond brun, je le vois plus.
OK, OK, ça, OK. C'est ça.
Ça disparaît, là.
Je quelqu'un qui rentre dans un saloon, mettons qu'il saigne de partout.
Ah non, non, ben, ouais. Ben tu sais, le sang dans le jeu vidéo, souvent, va être un peu noirci, okay. un peu plus sombre. Mais la map de Red Dead Redemption 2, le tracé pour te rendre quelque part, c'est rouge.
Oui. Hein?
Mais la map est brune.
OK, ben toi, c'est ma
fait que moi, je suis comme... Je sais pas par où je m'en vais. Oui. Tu sais, mes amis sont comme, ouais, mais suis le chemin. Je suis comme, je le vois pas, le chemin. Oui. Je sais pas comment me rendre quelque part. Fait que lâchez-moi avec ça. Puis, il y a un mode que, au lieu d'être rouge flash, ça va être rose.
OK, fait qu'il y a aussi, il met plus de blanc dedans, là.
Ouais, c'est ça. Puis, rose, c'est une autre couleur que je distingue mal. Pour moi, c'est beige.
OK.
Mais comme c'est blanc ou beige sur un fond brun, alors que ce sont des couleurs qui se ressemblent, là, je le vois bien plus, mais ça fait en sorte que ton viseur devient rose, le chemin devient rose, puis même quand t'ouvres le jeu, une espèce de colonne là, où t'as paramètres, jouets, peu importe, là, toutes les settings
menu,
du
là.
Jeu. Ouais, tout le menu défilant. Il y a une espèce de colonne, puis même ça va être rose. Fait que là, c'était mon ancien collègue qui était comme... Ok, tu joues à Red Dead Redemption, l'édition, la Pink Edition, qui doit coûter plus cher pour le cancer du sein, finalement.
Mais c'est vous, parce que des fois, un temps l'autre jour, je suis tombé sur un paquet de Uno. Mm-hmm. Tu sais, Uno, c'est des couleurs.
Ouais.
Puis, justement, c'est daltonien, ça se peut que tu as la misère à jouer à Uno parce que c'est aussi niaiseux que.
Vert, bleu, là.
C'est ça.
Oublie ça.
Ouais, c'est ça, fait que t'as un paquet
je
de bleu.
Je sais pas.
C'est ça. Fait que, tu sais, comme la star, il y a comme des logos, là. Mettons, le bleu, il y a une étoile, mettons, par-dessus. Ouais. Puis l'autre, le rouge, un cœur. Puis, tu sais, comme ça fait que tu peux jouer à des jeux sans. sans être troublé par nécessairement tout ça. Là.
Ouais. Mais même, je suis un fan, Chuck va me comprendre, mais je suis un fan de Lego dans la vie.
Ouais.
Puis j'adore faire des Lego. Et Lego ont compris ça, ils mettent pas deux pièces qui ont des couleurs semblables dans un set qui aurait la même shape, la même forme.
Mm.
Ou ils vont te l'indiquer, ils vont dire, hey, faites attention, c'est telle couleur, pas telle couleur. Mais ouais, ils vont faire vraiment attention à. Est-ce que tu confondes pas des couleurs qui vont pouvoir aller à deux places, puis que un moment donné, tu te retrouves à chercher ta pièce, puis tu la retrouves ailleurs. Il y a des gens qui sont plus daltoniens que moi, que pour eux autres, ça va être plus difficile.
Mm-hmm.
Mon père est daltonien, mon oncle est daltonien. It runs in the family.
Oui, oui.
Puis pour mon père, c'est super rough, là, des fois, de faire... Puis lui aussi, c'est un fan de Lego. Puis lui, tu sais, il va faire tous les modèles... qui sont genre, mon père a un problème, là, il achète trop de Lego.
ça, c'est une drôle d'intervention à faire, ça. Papa, arrête d'acheter des Lego puis dis-moi que tu mets ma place.
Ma mère, elle a dû intervenir une fois. Elle dit, là, c'est beau, là, mais
ouais.
Va falloir que tu aies une pièce pour ça un moment donné.
Puis aussi que c'est comme pas cheap, des Lego. Là, moi, que
non, c'est ça. Place, c'est ça. Ben, il fait un bon salaire, là, ouais, il est correct. Là, il peut s'en acheter, mais là, tu sais, dernièrement... Je sais pas si t'as vu, mais Lego a sorti une tour Eiffel qui mesure 5 pieds 2.
Oui, 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 c'est vraiment
c'est
comme...
C'est immense, c'est 10 000 une pièce.
Oui, c'est plus grand que du monde.
C'est plus grand que ma mère.
Ouais, c'est ça.
Mon père, ça l'a acheté.
Oui, crème.
La boîte est grosse comme la table. Là.
Oui, oui, c'est.
C'est mon beau-frère qui est allé la chercher. Ma soeur m'a envoyé une photo.
Faut que tu lui un pick-up pour aller chercher ta boîte. Ouais.
Quasiment, ça pèse genre 20 livres.
Il y a des boîtes IKEA qui sont plus petites que ça, là.
Oui, oui, oui. Mais le sac est plus gros qu'un sac IKEA, puis c'est marqué Lego dessus. Ça coûte 1000$, puis... Là, mon père est comme, oh, là, faut que je me trouve une petite table pour mettre ça dans le salon ou quelque chose. Je suis comme, où c'est que tu vas mettre ça? T'as pas de place pour ça.
Tu fais ton héritage partir comme, bon, va falloir que je vende de m'emmener ça
sur
marketplace.
Au contraire, je vois mon héritage arriver, parce qu'un jour, je vais pouvoir revendre ça, parce que... Ces pièces-là vont prendre la valeur quand même.
Ah, ça prend la valeur de Lego, tu penses?
Ça prend énormément de valeur de Lego.
Ah,
énormément de valeur. Il y a des sets qui sont des modulaires qu'on appelle. Excuse-moi, c'est un podcast.
Non, c'est pas grave, mais c'est, Lego, c'est geek, ça marche pareil.
Mais il y a des sets, c'est des modulaires. Fait que c'est une bâtisse qui y en sort un par année de ce modèle-là. L'année passée, c'était un musée avec un hôtel. Une année c'était un cinéma genre le Grauman's Chinese Theater mais en version Lego. Une année c'était un pet shop, une année c'était un café français. Puis ça les collectionneurs se les arrachent.
Mais ça c'est limité aussi, très très limité,
c'est limité.
Pas, c'est pas la base de... C'est pas genre la Wayne Manor, là.
C'est ça, puis ils ont un cycle. Je pense qu'après 5 ans, ils sont plus disponibles.
Mm-hmm.
Ben, je pense que les premiers modèles qui sont sortis, qui sont beaucoup moins beaux que ceux qui se font aujourd'hui, ils peuvent être évalués à 500, 600, mm-hmm. 700 piastres, alors qu'à l'époque, ils étaient vendus 200.
Oui.
Fait que t'as doublé, triplé ta valeur. Tu sais, tu dis par doubler, tripler ta valeur avec ça. Puis mon père les achète tous, il les collectionne.
Oh.
Fait qu'il en achète un par année.
Une fois c'est vrai, paraît qu'à un moment donné, genre, lorsque ça serait très triste et qu'il quitterait son monde, le notaire va dire « Je cède à mon fils mes Lego. » Puis genre, mon fils a 45 ans, du long de 50 ans. Ouais.
Ça va arriver, puis moi, je vais juste voir des signes de pièces devant moi. Là. Non, ma mère va probablement trépasser après mon père. Là. C'est, va l'avoir, puis elle va tout vendre ça, puis elle va mettre ça dans notre héritage.
Ouais, c'est ça, c'est un middlewoman.
C'est ça. Mais non, ça peut prendre énormément de valeur des Lego.
Je savais pas à ce point-là.
Ouais, c'est un gros marché, c'est des marchés de collectionneurs. Il y a des modèles qui sont faits en quantité extrêmement limitée. Moi, j'en ai quelques modèles chez nous que j'en prends soin parce que je le sais qu'ils vont,
oui.
vont finir par prendre énormément de valeur un jour. Là, une fusée, entre autres, des choses de même.
Écoute, Guillaume, merci d'être venu me parler que t'as chez vous, t'as des fusées de Lego.
Oui.
Moi, je le fais pas parce que c'est trop petit chez nous, mais sinon, je pourrais tomber là-dedans. Ton livre est disponible partout.
Oui.
Il s'appelle Génération Canal Famille.
Génération Canal Famille.
Ton balado avec Eugène Bonacci, qui est venu d'ailleurs à ce podcast-ci, si vous voulez retourner dans vos archives, il est venu, c'est un chic type.
Oui. On parle de quoi, Julien?
Julien parlait de Virtual Boy, à peu près tout. Virtual Boy, il me semble. Ouais, beaucoup d'affaires. Beaucoup de jeux, ouais. Ce balado, Opération
Beurre de Cinoche.
Beurre de Cinoche est disponible partout.
Oui, quand la station enregistre décide de mettre l'épisode en ligne.
Oui, c'est ça, absolument. Parlant de balado, du pain et des jeux est disponible partout, particulièrement sur iHeartRadio et la version vidéo sur la page Facebook de RDS Jeux Vidéo. Tant qu'à voir tes réseaux sociaux d'ouvert, viens liker la page Facebook de RDS Jeux Vidéo, notre Instagram à RDS Jeux Vidéo, notre Twitch aussi. On est dans le métro maintenant, le métro, il y a des fun facts sur les jeux vidéo, on est rendu partout. Merci d'être là, gang, aussi. On remercie Chuck Thompson pour ce studio incroyable. Venez Chuck à ces studios-là. Vous pouvez être assis à ces chaises-là, devant ces micros-là, parce que ces manettes-là s'en vont dans le tour. Je vais peut-être les vendre. Puis, je m'appelle Pierre-Luc Racine. Vous pouvez me trouver sur Facebook, il y a Pierre-Luc Racine. Des fois, je stream pour la page Facebook de RDS. On est dû pour faire un tournoi dans le cart, vu qu'il y a des packs s'en viennent. Là, de... ouais.
Écoutez-moi pas.
Non, désolé, sorry, man. Et à part de ça, je suis Instagram Pierre-Luc et TikTok Le Pierre-Luc. Venez voir ça et d'ici la prochaine fois, ben gang, je vous aime et joue encore plus.